de suite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Comment plusieurs armements made in France font feu en ce moment même sur le Yémen, y compris sur des zones où résident des civils. Voilà ce qui ressort en partie ce matin des Yemen Papers, révélation de la cellule investigation de Radio France, mais aussi du site Disclose sur la base de la fuite d'un rapport de la direction du renseignement militaire présenté au gouvernement en octobre dernier. 15 pages au total détaillant par le menu tout l'arsenal français utilisé par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis contre les rebelles aussi au Yémen. Des informations contestées toutefois par les autorités françaises selon lesquelles les armes en question ne seraient pas déployées directement sur la ligne de front.
Dans votre journal également, et dans un contexte de montée des partis nationalistes en Europe, la victoire hier des sociaux-démocrates aux élections législatives n'est pas franchement de nature à rassurer.
Oui, 0,2 petits points seulement les séparent du parti d'extrême droite, une situation qui risque donc de compliquer les tractations politiques à venir pour la formation d'une coalition de gouvernement. 5 mois après le début de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron annoncera ce soir à la télévision les premières mesures concrètes issues du grand débat national qui doivent lui permettre de lancer l'acte 2 de son quinquennat, et ce à quelques semaines d'élections européennes à valeur de test. Enfin, nous nous rendrons au lycée Bartholdi en Seine-Saint-Denis, l'un des 3 lycées sensibles de région parisienne où a été lancé ce matin un nouveau dispositif, celui des brigades régionales de sécurité dans les lycées franciliens. Et puis, invité exceptionnel oblige, Olivia. C'est à 12h50 exceptionnellement qu'on vous retrouvera pour la grande table des idées.
Avec Jean-Luc Godard, à l'occasion de cette émission spéciale et de la diffusion le 24 avril prochain sur Arte de son livre d'images, prix du jury, non, prix spécial, Palme d'Or spécial à Cannes l'an passé. C'est un film essai, un film somme sur le langage, sur l'art, sur les guerres et les révolutions dont nous parlerons avec le cinéaste légendaire Jean-Luc Godard dans la deuxième partie de la grande table.
Merci, à tout à l'heure. Quelle est la responsabilité de la France dans la guerre au Yémen? La question n'est pas seulement morale, politique ou juridique. Elle vise d'abord à savoir combien d'armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite ont potentiellement tué de civils, hommes, femmes et enfants, et combien d'autres encore ont possiblement participé à cette méthode de guerre aussi démoniaque que morbide visant à affamer les civils. Ce matin, les révélations de la cellule investigation de Radio France en partenariat avec Disclose démontrent non seulement que 35 civils sont morts dans 52 bombardements à portée de canons français, mais que les armes vendues par la France contribueraient par ailleurs à laisser mourir de faim des millions de yéménites. Bertrand Colomba, bonjour.
Bonjour.
La note confidentielle de la direction du renseignement militaire datée du 25 septembre 2018 que vous avez pu vous procurer révèle donc pour la première fois ce que le gouvernement français s'efforce de dissimuler, lui, depuis le début de ce conflit il y a 4 ans, soit une liste détaillée, tableaux et cartes de la région à l'appui, avec donc détails les armes françaises impliquées dans cette guerre au Yémen.
Oui, c'est une note de 15 pages qui dresse la carte des armes françaises utilisées par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans la guerre au Yémen. Des chars Leclerc avec des munitions françaises, des avions de chasse Mirage 2000 qui opèrent au Yémen depuis une base émirienne en Érythrée. Certains avions équipés de guidage laser français qui pourraient être employés au Yémen, dit la note. Dans cette liste, il y a également l'avion ravitailleur Airbus 330 MRTT, indispensable pour ravitailler plusieurs chasseurs de la coalition. Il y a aussi 48 canons baptisés César, déployés à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Des canons d'une portée de 42 km qui pointent sur des zones de civils bombardés et ouvrent parfois la voie à des actions offensives sur le terrain. Le renseignement français signale également des bateaux de fabrication française, une frégate et une corvette qui participent au blocus maritime de la coalition et qui bloquent l'acheminement de l'aide humanitaire alors que 80% de la population a besoin d'une aide d'urgence. L'analyse par Disclose de tous les bombardements effectués au Yémen est d'ailleurs assez édifiante. 30% des raids aériens visent des objectifs civils, marchés, stocks de grains ou réservoirs d'eau potable. Les sites alimentaires constituent la troisième cible la plus visée après les habitations et les sites militaires.
Alors cette note, Benoît, vient contredire la version officielle des autorités françaises qui jusque-là ont toujours évoqué une situation sous contrôle et surtout une utilisation uniquement défensive de l'armement français au Yémen. Or cette note, ayant été transmise à l'Élysée, mais aussi à Matignon, au ministère des Armées et à celui des Affaires étrangères, cela signifie que personne ne pouvait ignorer la vérité et que tous ceux qui auraient soutenu des versions, sinon différentes à tout le moins, édulcorées, ont délibérément menti.
Alors en fait, la France entretient l'ambiguïté dans cette affaire. Quand on regarde dans le détail, on voit bien que l'utilisation du mot « défensif » est utilisée en quelque sorte comme un paravent pour les autorités françaises qui mettent en avant leur partenariat stratégique dans la région avec les Saoudiens et les Émirats émirien, notamment dans la lutte contre Daesh et Al-Qaïda. À notre connaissance, les armes françaises ne sont pas utilisées sur la ligne de front et ne font pas de victimes civiles, affirme Matignon, contre toute évidence, d'autant qu'il y a aussi des zones grises. Un certain flou règne par exemple sur l'utilisation de mortiers ou de missiles anti-chars français sur le terrain. Alors aujourd'hui, la France affirme respecter le traité sur les armes qu'elle a ratifié en 2014 et qui l'oblige pourtant à suspendre les ventes d'armes en cas de soupçon de violation des droits de l'homme. Ce soupçon est aujourd'hui largement documenté au Yémen. Malgré ça, eh bien, les ventes d'armes françaises continuent pendant la guerre. De nouvelles livraisons de canons César sont prévues jusqu'en 2023.
Merci Benoît Colomba. Alors lui avait déployé, c'était le 19 février dernier, une banderole en pleine séance à l'Assemblée nationale portant l'inscription « La France tue au Yémen ». Lui, c'est le député de Haute-Garonne, exclu du groupe LREM, Sébastien Nadeau. À de nombreuses reprises déjà, il avait dénoncé la vente d'armes à l'Arabie Saoudite par la France, en particulier après la mort du journaliste Jamal Khashoggi, mais aussi après que l'Allemagne eut demandé aux pays européens de suspendre tout nouveau contrat d'armement avec Riyad. Et après avoir demandé en vain la création d'une commission d'enquête parlementaire, eh bien Sébastien Nadeau a finalement obtenu la mise en place d'une mission d'information sur ce sujet. Bertrand Galichet lui a demandé s'il était surpris par ces nouvelles révélations.
Moi, je suis pas surpris de ces informations. Ce que ça m'inspire, c'est que d'une part, on a un gouvernement qui ment effrontément sur la manière dont la France est engagée dans ce conflit au Yémen. Deuxièmement, il y a une infraction caractérisée au droit international, notamment sur le traité sur le commerce des armes. On a vraiment un rôle qu'il faut regarder de manière très différente aujourd'hui, qui permet à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis de disposer d'armes, d'assistance, de matériel français. De temps à autre, tout ça se retourne contre les populations civiles yéménites.
Est-ce que la France, au fond, ne sait pas quelle utilisation est faite de ces armements ou est-ce qu'elle ne veut pas le savoir ?
La France sait globalement comment ces armes sont utilisées par l'Arabie Saoudite ainsi que par les Émirats Arabes Unis. Quand on parle des canons César qui seraient utilisés à titre défensif, c'est pas le cas.
Voilà, Sébastien Nadeau, député de Haute-Garonne, il répondait à Bertrand Galichet. Puis toujours s'agissant du conflit au Yémen, j'ajoute que l'organisation de prévention des conflits International Crisis Group estime dans un rapport publié hier que les États-Unis doivent aider l'Arabie Saoudite à s'extraire de cette guerre lancée il y a 4 ans contre les rebelles houthis. Selon les auteurs de cette étude, Washington devrait par exemple nommer un émissaire pour cette crise, mais aussi suspendre la plupart de ses livraisons d'armes aux Saoudiens jusqu'à ce qu'ils mettent fin à leur intervention. Ces 5 dernières années ont été et demeurent un cauchemar pour leur famille. C'était le 13 octobre 2013, Louisa Akavi, infirmière pour la Croix-Rouge néo-zélandaise, et deux de ses collègues syriens se rendaient en convoi à Idlib où ils devaient fournir du matériel médical lorsque des hommes armés du groupe État islamique ont arrêté leur véhicule. 7 personnes avaient été kidnappées, dont 4 avaient été libérées le lendemain. En revanche, les détails du rapt de Madame Akavi, de 2 chauffeurs, avaient depuis été tenus secrets jusqu'à ce que le comité international de la Croix-Rouge ne décide hier de rompre le silence et de lancer donc un appel pour savoir ce qu'il est advenu de ses employés. Ce matin, la Nouvelle-Zélande a annoncé qu'une opération des membres de ses forces spéciales était en cours pour les localiser. La démocratie peut-elle éclore au Soudan ? Ce matin, le mouvement de contestation a dénoncé une tentative de dispersion du sit-in organisé devant le ministère de la Défense, un rassemblement pour exhorter les nouveaux dirigeants militaires à transférer immédiatement le pouvoir à un gouvernement civil. En Algérie, là-bas, le chef d'état-major de l'armée a non seulement clairement signifié qu'il n'y aura pas de solution en dehors de la voie légale, en l'occurrence favorable au maintien de tous les vestiges du bouteflikisme, mais pour s'éviter tout chahutage, les autorités semblent même de plus en plus disposées à user, si besoin, des bonnes vieilles recettes de l'intimidation, voire de la répression. En Libye, au moins 121 personnes ont été tuées et plus de 500 autres blessées en 10 jours d'affrontements au sud de la capitale, Tripoli. En revanche, depuis quelque temps, les positions des deux camps rivaux, les forces du maréchal Khalifa Haftar d'un côté et celles du gouvernement d'Union Nationale de l'autre, semblent figées dans un quasi statu quo. Le président israélien a lancé ce matin en direct devant les caméras les consultations pour choisir le futur premier ministre qu'il a prévu de nommer après-demain, sauf coup de théâtre. Son choix devrait se porter sur le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou. C'est la série française à succès, celle qui monopolise l'espace tant médiatique que politique depuis 3 mois, dont chacun aime débattre sans fin du dénouement possible et où l'intrigue politique d'une complexité peu commune est censée permettre de nous interroger sur le monde moderne. Ce soir à 20h, Emmanuel Macron dévoilera donc le synopsis de la saison 2 du Grand Débat National. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Après plusieurs jours d'intenses réflexions où il s'est quasiment barricadé à l'Élysée avec ses proches, le chef de l'État doit présenter donc ses propositions pour sortir du Grand Débat et relancer un quinquennat en perte de vitesse. Seul indice distillé hier, Anne, des changements en profondeur vont être lancés pour marquer un nouvel acte. Certains promettent même des surprises. Quelles sont les pistes évoquées?
Eh bien, celles qui sont directement en prise avec les gilets jaunes concernent évidemment le pouvoir d'achat et la fiscalité. Le Premier ministre Édouard Philippe a levé un petit coin du voile la semaine dernière lors de la restitution du Grand Débat. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts, avait-il déclaré au Grand Palais. Alors comment exactement? Eh bien, en modifiant le barème de l'impôt sur le revenu, 2 nouvelles tranches pourraient être créées pour le rendre plus progressive. Une mesure qui viserait la classe moyenne dont les revenus tourne autour de 2000 euros par mois. Il est également question de réindexer les petites retraites sur l'inflation. On se souvient que la désindexation à l'automne dernier avait provoqué la colère des anciens qui subissaient déjà l'augmentation de la CSG. Les familles monoparentales devraient aussi bénéficier d'un coup de pouce avec la création éventuellement, comme cela existe au Québec, d'un organisme pour faciliter le versement des pensions alimentaires. Sur le plan institutionnel, la proportionnelle devrait faire son entrée pour la représentation à l'Assemblée nationale. 74% des participants au Grand Débat sur la plateforme Internet la réclament. Reste à savoir jusqu'à quel niveau la décision pourrait s'établir entre 15 et 30%. Vote blanc, vote obligatoire, ce sont également des options sur la table, tout comme le retour du conseiller territorial, cher au ministre référent du Grand Débat, Sébastien Lecornu. Sont attendues également des mesures pour faire face à l'urgence climatique. En revanche, le retour de l'ISF et la modification des droits de succession semblent être exclus des annonces d'Emmanuel Macron qui s'ajouteront aux 10 milliards d'euros de mesures sur le pouvoir d'achat annoncées en décembre dernier, ce qui contraint aussi ses marges de manœuvre.
Merci Anne Fauquemberg. Alors on l'a bien compris, si la fiscalité, les mesures institutionnelles devraient occuper une bonne place dans le discours du chef de l'État ce soir, pas question pour autant de changer de ligne directrice. Emmanuel Macron a d'ailleurs reçu hier soir le Premier ministre avant de dîner avec plusieurs membres du gouvernement pour expliquer donc ses choix, manière à nouveau de concentrer la décision au palais de l'Élysée. C'est du moins l'analyse formulée par l'enseignant en communication politique à Sciences Po, Philippe Moreau-Chevrolet. Il répond à Steven Goyer.
C'est une rencontre qui avait pour objectif de montrer que l'autorité est venue du chef de l'État, que c'est véritablement Emmanuel Macron qui est à l'origine de la séquence qu'on est en train de vivre. Donc c'est l'Élysée qui reprend la main, qui impose son rythme à la fois aux médias, au gouvernement évidemment, aux ministres, et on fait tout pour que il n'y ait plus de couac, il n'y ait plus de contradictions et pour que tout le monde marche d'un seul pas. On sait que c'est devenu en partie l'obsession d'Emmanuel Macron au cours des dernières semaines d'avoir un gouvernement qui ne parle que d'une seule voix et qui a eu de très nombreux dérapages. On est dans une centralisation totale du pouvoir. On n'a jamais eu sous la Ve République l'exemple d'un président qui agissait de manière aussi solitaire, de manière aussi indépendante et des institutions et des corps intermédiaires de son parti qui n'est pas vraiment un parti pour l'instant, de son gouvernement et de ses ministres. Donc véritablement, c'est même avec des conseillers qui sont quasiment partis, puisqu'il y a eu 17 départs parmi ses conseillers depuis le début de l'année. Donc on est vraiment face à un président seul, qui arbitre seul et qui met en scène cette solitude du pouvoir. On arrive un peu aux limites de l'exercice du solitaire du pouvoir sous la Ve République. En tout cas, on vit dans une séquence, au fond, extrêmement dangereuse.
Voilà, Philippe Moreau-Chevrolet, enseignant en communication politique à Sciences Po. Il répondait à Steven Goyer. Des agents pour assurer la sécurité dans les lycées. Valérie Pécresse présentait ce matin un nouveau dispositif dans l'un des 3 lycées sensibles de la région parisienne choisi pour expérimenter donc l'implantation de brigades, des brigades composées de 5 agents chacune, déployées sur demande des lycées et qui viennent en renfort des équipes mobiles du rectorat de Créteil. Maud Calves, bonjour.
Bonjour.
Valérie Pécresse faisait donc ce matin la présentation de ce dispositif au lycée Bartholdi en Seine-Saint-Denis où les agents sont déjà déployés depuis une semaine.
Oui, une combinaison bleue étiquetée Île-de-France, chaussures de sécurité noires, des carrures imposantes. Ces agents patrouillent dans les couloirs, sécurisent les abords du lycée. Ils ne sont pas armés et font de la médiation. Mais Valérie, étudiante en commerce, ne les trouve pas du tout rassurants.
Des fois, je sors pour aller faire pipi aux toilettes, je vois un gros monsieur comme ça là qui débarque comme ça, j'ai dit « Non, ça fait peur !» Mais après, à Sagny, on a l'habitude, quoi. On n'a pas besoin, leur maman, de ramener des monsieur comme ça dans un lycée. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais dans une prison et qu'on me gardait. Moi, je dis que Macron, là, il devrait investir dans ce lycée parce que moi, j'ai l'impression, Sagny, là, on nous a oubliés, hein.
Les agents se veulent, eux, sécurisants. La semaine dernière, ils se sont présentés aux élèves, ont expliqué leur mission, comme Asma, auparavant agent de sécurité dans le spectacle.
On appuie les professeurs dans ce qu'ils font dans leur quotidien. Le matin, on va se réunir, on va être près d'eux à l'entrée. Du retour qu'on a sur une semaine, tout est un peu plus fluide finalement. Les carnets sortent plus facilement, on rechigne moins à la porte. Voilà, nous on tourne dans les lieux, dans le foyer, dans les couloirs, tout autour de l'établissement.
Plusieurs enseignants du lycée ne comprennent pas cette présence. Ils ne demandent pas plus de sécurité, mais bien plus de moyens. Pas assez de professeurs, des locaux parfois vétustes, même les agents d'entretien sont dépassés. Ce professeur profite de la présence de Valérie Pécresse pour lui dire.
Ils sont traités comme des moins que rien, et maintenant on leur met des vigiles du type de vigile de Carrefour, alors que nous, ce qu'on demande, c'est du personnel pédagogique, du personnel enseignant, des adultes qui puissent s'exprimer avec eux. Pas des gens qui viennent leur montrer leur képi et leur uniforme, enfin.
La présidente de la région Île-de-France répond, sans besoin, pas d'agents.
Je ne force jamais aucun établissement à avoir plus de sécurité. La sécurité, elle vient là où on la demande. Moi, je ne réponds qu'à la demande. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sérénité.
Ce n'est que le début du dispositif, prévient Valérie Pécresse. En cas de besoin, d'autres agents seront déployés dans les 8 départements d'Île-de-France.
Merci Maud Calves. Et puis je précise effectivement que cette brigade, donc basée au lycée Bartholdi de Seine-Saint-Denis, interviendra sur tout le département. Et Paris, une autre basée au lycée Champlain, couvrira les établissements du Val-de-Marne, de l'Essonne, de Seine-et-Marne. Enfin, la dernière, installée au lycée Jean Jaurès à Argenteuil, agira sur le Val-d'Oise, les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Les urgences de plusieurs établissements de l'assistance publique hôpitaux de Paris sont en grève illimitée depuis hier soir à l'appel des syndicats de Sud Santé et CGT. Les infirmiers et aides-soignants souhaitent de meilleures conditions de travail et davantage de sécurité. Marine Le Pen présentera aujourd'hui son manifeste et ses propositions en vue des élections européennes. La présidente du Rassemblement National entend tout remettre sur la table, mais sans sortir de l'euro, entérinant ainsi le virage pris après la présidentielle. En clair, plus question désormais pour la formation d'extrême droite de plaider pour une sortie de la France de l'Europe. Après 20 années de disette marquées notamment par leur échec cuisant aux législatives de 2015 et au terme d'une soirée électorale à suspense, les sociaux-démocrates finlandais ont enfin signé hier leur retour au pouvoir. Le parti SDP, conduit par l'ancien ministre des Finances Antti Rinne, obtient 40 sièges sur 200, soit un de plus seulement que les vrais Finlandais du nom de la formation anti-immigration eurosceptique d'extrême droite. Anne-Françoise Hiver, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante dans la région. Alors il y a deux manières de lire ces résultats, soit en se félicitant de la courte victoire des sociaux-démocrates, soit en notant la demi-défaite de l'extrême droite, laquelle est parvenue à plus que doubler son nombre de sièges au Parlement. Alors demi-victoire pour les uns, demi-défaite pour les autres. En réalité, Anne-Françoise, c'est surtout un vrai succès pour les vrais Finlandais.
Oui, c'est une victoire pour eux sans conteste. Certes, ils font quasiment le même score qu'en 2015, mais ce n'est plus du tout le même parti. En 2017, les radicaux ont pris le pouvoir, causant le départ des plus modérés. Depuis, le parti s'est radicalisé, tant au niveau du ton que du programme. Son chef de file, l'ex-eurodéputé Jussi Halla-aho, a été condamné en 2012 pour blasphème et incitation à la haine raciale. Quant aux modérés, quand ils sont partis pour créer une formation dissidente, la réforme bleue, ils ont emporté 5 ministres et 17 députés. Hier soir, aucun d'entre eux n'a été réélu, tandis que les vrais Finlandais, eux, ont décroché 39 sièges de députés au Parlement.
Alors ces résultats en Finlande, Anne-Françoise, démontrent une fois encore le succès de plus en plus palpable aujourd'hui des formations anti-immigration eurosceptiques chez nos voisins nordiques en général. Et ce faisant d'ailleurs la difficulté aussi pour les formations dites républicaines à former des coalitions pour gouverner.
Oui, et c'est ce qui risque de se passer en Finlande. Alors l'exemple le plus explicite, c'est celui de la Suède, où l'extrême droite n'a obtenu que 19% des voix en septembre, moins bien que ce que les démocrates de Suède, c'est le nom du parti, espéraient. Mais leur score et le refus de la classe politique de briser le cordon sanitaire a suffi pour compliquer la formation du gouvernement, puisqu'il aura fallu 4 mois et demi au social-démocrate Stefan Löfven pour rassembler une majorité. En Estonie, les députés doivent voter aujourd'hui même sur la proposition de coalition dirigée par le parti de la réforme avec les sociaux-démocrates. S'il s'y oppose, et c'est ce qui risque d'arriver, l'extrême droite, qui a triplé son score aux législatives en mars, pourrait faire son entrée au gouvernement. Au Danemark, enfin, les sociaux-démocrates sont eux donnés en tête avant les législatives, qui devraient avoir lieu en mai. L'extrême droite, cette fois, est à la peine dans les sondages. Mais là encore, la formation du gouvernement s'annonce très compliquée dans un paysage politique plus polarisé et morcelé que jamais.
Merci Anne-Françoise Hivert en direct de Malmö. On termine avec un mot rapide de météo pour cet après-midi. Ciel perturbé sur la façade atlantique, partout ailleurs du soleil. Les températures, elles seront généralement comprises entre 13 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.